Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Voyager, on en rêve. Si les voyages en France sont à nouveau possibles ou à l'intérieur de l'espace Schengen, la possibilité de partir au loin cet été reste hypothétique. Parmi les destinations des grandes vacances des chrétiens, la Terre Sainte. Un voyage, pèlerinage que l'on ne fait pas tous les ans mais qui compte d'autant plus, et ce, pas seulement pour les pèlerins mais aussi pour les chrétiens de Terre Sainte. Alors, quelles nouvelles de Jérusalem ? Partir en Terre Sainte en famille, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin autour du plateau. Pour nous en parler, Stéphane Milovic, vous êtes religieux franciscain de la custodie de Terre Sainte et vous êtes en Terre Sainte. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, parler bien près du combiné. Moïse Ballard, vous êtes religieux de la communauté des Béatitudes, accompagnateur de pèlerinage, auteur d'un ouvrage, d'un ouvrage intitulé « L'enjeu spirituel du mystère d'Israël » paru aux éditions des Béatitudes. Bonjour. Bonjour frère Moïse. Frère Moïse, on va vous retrouver. Et Axel et Aliette de la Handesse, vous êtes pèlerines en Terre Sainte et vous êtes en plateau. Bonjour.
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 On va commencer avec vous, Stéphane Milovic. Merci de nous consacrer du temps. Ça nous fait une petite fenêtre de
Jérusalem.
De nous consacrer du temps depuis Jérusalem. Merci de cette petite fenêtre que vous allez nous offrir de ce voyage. Alors, on a beaucoup de questions sur la Terre Sainte. La première chose, allez, puisqu'on voyage, quel temps fait-il à Jérusalem ?
Ben écoutez, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau et on espère tous que cela puisse exterminer le coronavirus, même si on n'y croit qu'à moitié. Il fait beau et les gens, sont toujours confinés, mais plus ça va, plus le confinement se résorbe. Et la cloche de Gauss en Israël arrive vers le bas. Donc nous sommes assez contents des résultats pris par les médecins et tout ce qui était lié à la crise du coronavirus.
Alors justement, dans le journal La Croix, c'était en date du 15 juin cette semaine, on pouvait lire qu'il y avait eu 18 000 personnes qui avaient été malades du coronavirus en Israël, 299 décès. Dans les territoires palestiniens, près de 400, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être déjà des conséquences du coronavirus pour la Terre Sainte ?
Alors en fait, je suis entre autres responsable des ressources humaines de la custodie de Terre Sainte. J'aimerais quand même dire deux mots sur ce qu'est la custodie de Terre Sainte. Donc c'est l'ensemble de ces franciscains qui vivent en Terre Sainte depuis 8 siècles et de façon continue. Nous avons célébré le 8e centenaire il n'y a pas tellement longtemps. Nous avons à charge une cinquantaine de sanctuaires dans lesquels les pèlerins sont les bienvenus. Et à l'ombre de ces sanctuaires, nous gérons beaucoup de paroisses chrétiennes latines de Terre Sainte. Et liées à ces paroisses chrétiennes latines, et bien vous avez beaucoup d'écoles, beaucoup d'œuvres sociales, et donc en fait beaucoup de personnes travaillent pour l'Église en Terre Sainte. Donc la custodie de Terre Sainte doit employer plus de 1000 personnes, donc c'est quand même assez important, et à cause de la crise du coronavirus, ici, comme en France et comme partout dans le monde, il a fallu mettre les gens au chômage technique.
Alors on y reviendra si ça vous embête pas, parce que j'ai quelques questions sur ce sujet, mais juste si on reste sur la situation générale en dehors de la custodie de Terre Sainte, vous disiez le coronavirus a été, on va dire, bien maîtrisé en Israël. Ça fait toujours trop de morts, mais quel chiffre vous auriez à nous citer ? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de la situation exacte ?
Ben écoutez, effectivement, il y a eu les chiffres que vous avez annoncés, c'est assez restreint, comme vous dites, c'est toujours trop les morts, mais c'est quand même restreint par rapport à bien des pays du monde entier. Personnellement, je n'ai pas connaissance de personnes ayant contacté le coronavirus, donc c'est quand même un signe que ça n'a pas été trop répandu. Il y en a quand même malgré tout. On a eu assez peur dans les territoires palestiniens, à Gaza en particulier, où toute la partie sanitaire est assez précaire. Donc si l'onde se déclenchait, on avait peur de ne pas pouvoir la maîtriser. Mais globalement, les choses ont été assez bien faites. Israël a fermé ses frontières assez rapidement. Pratiquement une semaine après le début de la crise, les frontières étaient fermées. Les pèlerins ne pouvaient plus venir. Les pèlerins qui étaient là, certains ont dû quitter la Terre Sainte précipitamment. Les territoires ont été bouclés. Donc il y a eu tout de suite une chape de plomb qui a été mise sur le pays. Et finalement, ça a apporté des fruits assez positifs.
Alors de fait, je me suis trompé, donc pour les territoires palestiniens, c'est 5 morts et 661 cas. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait lire dans le journal La Croix le 15 juin dernier. Vous, comme partout ailleurs, on imagine que la vie dans les lieux saints, sans communauté et sans pèlerins, ça doit être particulièrement frappant, voire cafardeux, si je peux me permettre. Comment ça se passe? Comment ça se vit, par exemple, au Saint-Sépulcre, où il y a une liturgie? La liturgie a continué en absence de fidèles?
La liturgie a toujours continué dans la basilique du Saint-Sépulcre. Vous savez qu'il y a une communauté de franciscains, de grecs, d'arméniens qui vivent dans la basilique. Donc la communauté des frères est restée dans la basilique. La basilique a été fermée par les autorités. Était fermé, mais le culte a continué dans la basilique. Alors en fait, il y a deux catégories de chrétiens dans le pays, de liturgie. Vous avez à la fois les liturgies des pèlerins, alors celles-ci bien évidemment se sont estompées par manque de pèlerins, mais vous avez aussi les communautés locales, les paroisses. Donc ma communauté, la communauté de Saint-Sauveur, est une communauté où il y a une grande communauté chrétienne locale. Nous avons la paroisse latine de Jérusalem. Alors là, malheureusement, un petit peu comme partout, eh bien, les pèlerins, les chrétiens locaux ne pouvaient pas venir à la liturgie pendant au moins 3 semaines. Le curé de la paroisse, le curé franciscain, a essayé d'organiser des... parce qu'on pouvait rassembler une trentaine de personnes, donc il y a beaucoup de messes qui ont été démultipliées dans les différents quartiers, dans des lieux. Donc les gens, les fidèles ont pu plus ou moins accéder à l'Eucharistie, mais ça a été assez compliqué. Il y a beaucoup de précautions qui ont été prises. À la basilique du Saint-Sépulcre, les liturgies de Pâques sont très très soutenues. En général, il y a une centaine de franciscains présents, les séminaristes du patriarcat latin, le patriarcat latin, et puis des religieux, et puis des pèlerins. Ce sont des liturgies très très longues. Rien que le jeudi saint, il y a plus de 10 heures de liturgie dans la basilique, donc c'est assez soutenu. Et c'était assez effrayant de voir qu'il n'y avait que 15-20 personnes, donc c'était assez lourd au niveau du chant d'assurer...
De célébrer, on imagine,
avec,
ouais.
En tout avec cas, aussi peu de personnes.
En tout cas, on entend que la liturgie a continué de vivre, en tout cas en partie sur les lieux saints. Alors revenons à la custodie, si vous le voulez bien. Donc la custodie, ce ne sont pas seulement des franciscains dans quelques lieux saints qui continuent à assurer la liturgie. Vous le disiez, c'est plus de 1100 personnes qui sont employées, et puis derrière beaucoup d'œuvres, entre autres d'écoles. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire peut-être de vos difficultés? Alors tout le monde en ce moment parle des difficultés financières, mais on imagine que l'absence de pèlerins peut avoir un impact au final en fait sur toutes les œuvres sociales de la custodie.
Ben disons que bien des œuvres sociales de la custodie dépendent un petit peu de la générosité des chrétiens de l'extérieur de Terre Sainte. Vous savez qu'il y a la quête du Vendredi Saint qui permet de maintenir les œuvres sociales, les écoles, les dispensaires et beaucoup de bourses d'études, d'œuvres sociales diverses et variées.
Alors juste, rappelez ça, précisez oui. Ça, c'est-à-dire que toutes les quêtes du Vendredi vont à la Terre Sainte, c'est ça ou...
Oui, le Vendredi Saint, dans le monde entier, donc il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui participe à la liturgie le Vendredi Saint, il n'y a pas toujours des quêtes non plus, mais en principe toutes les quêtes arrivent en Terre Sainte, et ce qui permet à la Terre Sainte de pouvoir assurer tout un tas d'œuvres sociales. Par exemple, dans les territoires palestiniens, à Bethléem, par exemple, nous avons deux écoles, à peu près 2100-150 élèves scolarisés, une école où se retrouvent à la fois des chrétiens et des musulmans, une école qui remonte au XVIe siècle, donc 5 siècles. Lorsque le mur de séparation a été construit entre Jérusalem et Bethléem, les chrétiens de Bethléem et les gens de Bethléem en général ne pouvaient plus aller travailler à Jérusalem, et donc ils vont se retrouver au chômage. On avait une école qui durait depuis 5 siècles, alors c'est sûr que les gens ne pouvaient plus payer la scolarité, l'autonomie palestinienne non plus. Donc en fait, d'un point de vue économique, il fallait fermer l'école, mais on ne peut pas renoncer à l'éducation lorsque les problèmes humains se, apparaissent, donc il faut justement maintenir pour éviter les fondamentalismes et l'ignorance en général.
Et là, en l'occurrence,
donc,
la frère...
en fait, ça custodie.
Et en l'occurrence, la frère Stéphane Milovic, quelles sont vos difficultés présentes, et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des personnes qui vont être licenciées ou des œuvres sociales, voire même qui vont être fermées?
Alors, dès que la crise du coronavirus est intervenue, en Israël, vous avez un chômage technique, donc les gens pouvaient être renvoyés chez eux, mais les contrats continuaient, et l'État versait 70% du salaire des employés. Alors ça, je veux dire que c'était assez pratique, d'autant plus qu'il a fallu fermer toutes les activités. On ne pouvait avoir que 30% des effectifs à cause de la crise. Par contre, dans les territoires palestiniens, il n'y a aucune aide de l'État. Donc les ouvriers ont été renvoyés dans leur maison.
Et pour vous,
si les contrats existent.
Et pour vous,
la custodie a décidé de payer malgré tout 50% du salaire de ces personnes. Alors ça, c'était assez compliqué, parce que payer un salaire alors qu'il n'y a pas de revenus, c'est difficile. Donc on espère que la crise ne va pas durer trop longtemps. À Bethléem, nous avons la Casa Nova, un lieu où on accueille en principe les pèlerins. Donc les pèlerins financent la Casa Nova, et le surplus peut être déversé vers les écoles et vers d'autres activités sociales. Et donc là, ce sont des gens que nous payons à 50%. Et la production est faible. Donc on espère que la Providence ne nous abandonnera pas. Il y a 8 siècles que nous sommes là, et on espère bien que le Seigneur ne nous abandonnera pas.
Alors la Providence, c'est aussi les pèlerins. J'aimerais qu'on finisse là-dessus. Je citais en teasing de l'émission ce matin un autre article du journal La Croix, disant que les agences de voyage chrétiennes en France faisaient plus que tousser, et surtout étaient inquiètes de leur avenir. Et l'article commençait de la manière suivante: la peur est le principal ennemi des agences de voyage chrétiennes. Qu'est-ce que vous pourriez dire au sujet de cette peur? Peut-on venir en Terre Sainte en toute sécurité, a priori, dans les mois qui viennent, et est-ce que vous savez quand on pourra retourner pèleriner en Terre Sainte?
Alors, il est difficile de savoir quel sera le futur de la crise sanitaire, parce que personne ne le sait vraiment. Les frontières...
Alors, on vous a perdu. Donc je vais continuer de faire écho pendant que peut-être qu'on essaie de vous rappeler, à ce qu'on pouvait lire donc à propos des agences de voyage chrétiennes dans le journal La Croix. Didier Geffredo, PDG fondateur de l'agence Bipel, disait que cette peur a été tellement distillée dans la tête des gens qu'il faudra un certain temps pour qu'elle se dissipe, expliquant aussi cet article que, évidemment, nombre de pèlerins, je ne sais pas si c'est évident, mais en tout cas, ils ont peut-être plus le temps de nombre de pèlerins sont des personnes âgées, et que ces personnes étant dites à risque, cela les freinait davantage. Et alors, cet article laissait entendre, et peut-être que le frère Stéphane Milovic pourra nous le dire, qu'il faut d'une certaine manière anticiper la reprise, car si on décide cet été, par exemple à l'automne prochain ou pour la Noël, d'aller faire un voyage en Terre Sainte, ça sera trop juste pour les agences de voyage. Voilà, on va récupérer le frère Stéphane Milovic. Alors, on ne le récupère pas. On va faire une pause, et puis après, on va retrouver nos autres invités, entre autres vous, Moïse Ballard. Je rappelle, vous êtes religieux de la communauté des Béatitudes et accompagnateur de pèlerinage. Et avec vous, on va partir par procuration en Terre Sainte. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Partir en Terre Sainte en famille, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On essaye de faire voyager nos auditeurs, à défaut de pouvoir pour l'instant partir en Terre Sainte. Et avec nous, était avec nous en début d'émission Stéphane Milovic, qui est donc religieux franciscain de la custodie de Terre Sainte, qu'on avait depuis Jérusalem. On a eu un petit problème technique, on en est désolé. C'est les aléas du direct. Moïse Ballard est avec nous, religieux de la communauté des Béatitudes, accompagnateur de pèlerinage. Et Axel et Aliette de la Andesse, qui sont d'anciennes pèlerine, bien qu'on reste peut-être toujours pèlerin en Terre Sainte. Alors, je vais parler à la place du frère Stéphane Milovic, puisqu'on l'a perdu. On avait réussi à la revoir pendant la pause et puis on l'a reperdu. Il nous disait tout simplement qu'il ne fallait pas tarder à programmer ses voyages pour aller pèleriner, soutenir les chrétiens de Terre Sainte, et que la peur était évidemment l'ennemi de la sagesse, quelque part. Moïse Ballard, avec vous, on va se balader. Alors, vous êtes depuis Naï, où votre communauté est installée. On aurait préféré vous avoir en plateau, mais c'est comme ça. Alors, y a bien des lieux dont on pourrait parler, tant c'est une terre riche. Qu'est-ce que vous diriez, Moïse, déjà, pour commencer? Pourquoi faut-il partir en pèlerinage en Terre Sainte?
Eh bien, si on est un chrétien convaincu et qu'on lit la Bible, c'est impossible de ne pas avoir le désir de fouler avec les pieds la terre qui a produit la parole de Dieu, la terre où Jésus est né. C'est vraiment un lieu extraordinaire pour ceux qui y ont déjà été. Tous ceux qui en reviennent disent ma vision de la foi chrétienne, ma lecture de la Bible, bien sûr, mais même ma vision de la foi chrétienne est renouvelée par le contact avec la terre qui a porté la Bible et Jésus.
Alors vous, combien de fois vous êtes parti en Terre Sainte, Moïse? Est-ce que vous arrivez à faire le compte ou est-ce que vous avez arrêté de compter?
Oui, non, j'ai arrêté de compter. J'ai résidé 6 années au total en Terre Sainte, j'ai eu cette chance. Et puis j'ai multiplié les pèlerinages à cette époque-là, et enfin pour une part, parce que pour une part aussi c'était pendant l'intifada. Et puis à mon retour, j'ai continué d'y aller tous les ans, tous les 2 ans, ou 2 fois par an selon les cas. Bon, je n'ai pas compté. J'ai fait au moins 30 pèlerinages. Ça fait 20 ans que je suis guide en Terre Sainte.
Alors, on peut dire aussi, pour finir l'introduction, les présentations, dire ou redire que la communauté des Béatitudes est particulièrement, férue de judaïsme, ou attentive à ce qu'on appelle le mystère d'Israël. D'ailleurs, vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'enjeu spirituel du mystère d'Israël ». Si vous deviez aussi dire un mot de cela, c'est-à-dire on y va comme chrétien, mais on y va dans un monde juif, et parce qu'il y a toujours un mystère autour d'Israël.
Oui, alors bien sûr, c'est un aspect des choses. Quand on va en pèlerinage, on ne va pas rencontrer simplement des pierres mortes, mais on va rencontrer des pierres vivantes. Et les pierres vivantes, ce sont bien entendu les chrétiens qui sont sur place, les communautés locales dont le frère Stéphane nous a parlé tout à l'heure. Mais c'est aussi le peuple que Dieu a choisi, le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, c'est difficile d'en parler les deux ensemble parce qu'il y a ce conflit et les chrétiens sont plutôt du côté arabe, même s'il y en a aussi côté juif. Mais quand même, ça reste le peuple juif, reste le peuple que Dieu a choisi. Et jusqu'à aujourd'hui, il est le peuple élu. Et puis, si nous tournons notre regard vers l'horizon de la fin des temps, l'horizon eschatologique, eh bien, nous attendons, selon notre foi, le moment où il y aura comme une illumination, comme une... Saint Paul parle de quelque chose comme une assomption du peuple d'Israël. Et ça, c'est un événement central, enfin plutôt final de notre foi, qui a une importance jusqu'à aujourd'hui pour nous. Nous devrions avoir dans le cœur, comme Saint Paul d'ailleurs, qui pourtant était l'apôtre des païens, nous devrions avoir une douleur dans le cœur pour nos frères aînés, comme disait Jean-Paul II, les Juifs, qui n'ont pas reçu, pour beaucoup d'entre eux, la foi en Jésus leur Messie.
Alors, je vous propose qu'on commence notre pèlerinage. Alors, vous avez décidé de nous emmener d'abord au Néguev. J'ai cru comprendre que c'était souvent par cela que l'on commençait en Terre Sainte, pour parler de la première alliance, de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament, pardon. Alors, vous avez choisi 2 lieux pour le Néguev. Le premier lieu, c'est un cratère. C'est le cratère de Ramon. Expliquez-nous, racontez-nous à quoi ressemble ce cratère immense au cœur duquel il y a, semble-t-il, une oasis assez extraordinaire.
Non, c'est pas tellement pour l'oasis. Effectivement, c'est un cratère. Il y a dans le Negev trois cratères qui ne sont pas des résultats d'une météorite qui serait tombée, mais c'est simplement l'érosion dans un contexte géologique particulier qui a creusé des cratères qui sont assez extraordinaires quand on arrive dessus. Chacun des trois, peut-être plus particulièrement le petit cratère et le cratère Ramon, celui dont je vais parler, le cratère Ramon qui est le plus grand, c'est étonnant. Vraiment, on a l'impression de tomber dans un paysage lunaire, mais magnifique, magnifique, vraiment.
Alors
très beau.
J'ai noté 40 km de long, 10 km de large, 350 mètres de profondeur. Il faut dire aussi donc, que le Negev, c'est ce désert au sud-ouest d'Israël. Hein. Et alors, pourquoi vous avez choisi ce cratère de Ramon? En fait, qu'est-ce que ça a de biblique, quelque part?
Biblique, c'est pas très loin. La partie la plus au sud est pas très loin de la ville de Kadesh. Dans la Bible, la ville de Kadesh est un passage important de l'exode du peuple d'Israël à travers le désert, puisque c'est le lieu d'où sont partis les envoyés de Moïse, les 12 envoyés qui sont venus explorer la terre d'Israël, la terre de Canaan, l'époque plutôt. Et puis quand ils sont revenus, ils ont dit ce pays est très beau, vraiment le pays que le Seigneur nous donne est très beau, mais il est peuplé par des peuples puissants et des villes fortifiées, et donc il faut craindre. Et le peuple du coup a murmuré contre Dieu en disant on aurait mieux fait de rester en Égypte. Donc c'est un passage important, c'est à ce moment-là que le Seigneur a dit puisque ce peuple se rebelle contre moi, puisqu'il refuse le pays que je lui donne, eh bien, ils vont errer 40 ans dans le désert jusqu'à ce que cette génération ait disparu.
Alors, ils n'ont pas tourné 40 ans dans le cratère de Ramon pour autant, c'est...
Non, non, non. En fait, ils étaient au seuil de ce cratère. Si on situe la Kadesh, la ville de Kadesh à l'endroit où les archéologues le devinent. Et ils sont revenus en arrière, vers la mer Rouge. Et puis, ils ont tourné, nous dit le livre du Deutéronome, ils ont tourné autour de la montagne de Seir. Donc, ils ont fait comme des ronds. Jusqu'au moment où le Seigneur lui a dit, maintenant, assez erré, vous allez partir, vous allez contourner le pays d'Édom, le pays de Moab, et vous allez entrer par le Jourdain.
Alors, on comprend le cheminement que vous proposez aux pèlerins de commencer par, on va dire, regarder en face cette attitude intérieure du croyant dans laquelle on peut probablement se retrouver. Pourquoi est-ce que vous avez choisi après, pour le Negev, donc la ville nabatéenne, donc de Mamchit, si je prononce correctement, dont on a des restes et qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO?
Oui, ce sont de très beaux vestiges. Alors, cette ville, comme quelques autres, qui sont uniquement, il n'y a que des vestiges, c'est une ville du peuple nabatéen, qui est une peuplade qui existait à l'époque de Jésus et qui ont très tardivement peuplé le désert, très tardivement pour la période biblique, c'est-à-dire à la fin de la période de l'Ancien Testament et qui était encore là au début du Nouveau Testament. C'est un exemple de peuples qui sont qui vraiment ont choisi de vivre au désert, et leur exemple a été retenu ensuite par les premiers chrétiens de l'époque byzantine. Au 5e siècle ont été construites deux églises dans cette ville, parmi ces deux églises, il y en a une qui était une église de monastère, et c'est un magnifique exemple où l'on voit comment les premiers chrétiens, enfin pas tout à fait les premiers, mais à partir de la période byzantine, ont choisi d'aller vivre au désert pour y rencontrer le Seigneur qui se manifeste au désert. Un peu comme quand on relit, si vous avez le souvenir du prophète Osée, qui dit...
Je te fiancerai au désert.
Voilà, je la séduirai. Je l'emmènerai au désert et je séduirai son cœur et je me fiancerai à elle. C'est-à-dire que le désert, c'est le lieu, et c'est pour ça que c'est un passage obligé, à mon sens, de tout pèlerinage. C'est le lieu où on abandonne un peu toute cette sécurité, tout ce à quoi on est familier. On se retrouve un peu tout seul, tout nu, entre guillemets, face à Dieu. Et en hébreu, désert se dit midbar. Et midbar, la racine, c'est davar. Donc c'est paradoxal parce que c'est un peu le lieu du silence. On n'entend pas grand-chose, même on entend une qualité de silence qui est très belle. Et précisément, c'est pour ça qu'on est capable d'entendre la parole de Dieu. Davar, c'est en premier la parole de Dieu.
Alors, troisième lieu, après donc ce passage au désert, donc vous avez choisi la Galilée, donc ça ne surprendra pas trop les auditeurs, mais particulièrement la ville de Capharnaüm. À Capharnaüm, on peut trouver un certain nombre de choses. Vous vouliez nous parler de la maison de Pierre. Dans les évangiles, il est dit que Jésus va souvent dans cette maison. Donc cette maison existe, le lieu est à peu près authentifié. À quoi ressemble cette maison, frère Moïse ?
Alors oui, Capharnaüm, c'est aujourd'hui une ville aussi en ruine, elle n'a pas été reconstruite par-dessus, comme c'est le cas pour d'autres villes qui ont pourtant été ruinées dans l'histoire. Et de fait, il y a deux choses importantes à Capharnaüm, il y a la maison de Pierre et la synagogue. Donc en ce qui concerne la maison de Pierre, c'est un des lieux, c'est assez remarquable pour être noté, un des lieux qui est vraiment authentifié de manière certaine par les historiens et les archéologues, par une concordance.
Et c'est rare en Terre Sainte les lieux vraiment authentifiés, hein.
Oui, c'est assez rare. C'est le cas du Saint-Sépulcre, pour d'autres raisons. C'est le cas du Cénacle aussi. Mais pour d'autres lieux, on peut simplement, par exemple pour Bethléem, on peut conjecturer que si c'est pas là, c'est plus près. Mais on n'a pas une certitude. On ne peut pas avoir une continuité historique et archéologique depuis l'époque de Jésus jusqu'à nos jours. Le plus souvent, on a comme un fossé, un manque d'information dans les trois premiers siècles de l'histoire de l'Église.
Alors à quoi ressemble cette maison, frère Moïse ? Donc c'est un deux pièces, si je puis dire, tout simplement ?
Oh non, c'est pas un deux pièces. Non, il faut savoir qu'à l'époque, les familles vivaient rassemblées. Il y avait donc la famille de Pierre, sans doute la famille de son frère André. On apprend qu'il y avait la belle-mère qui habitait sur place. Donc quand on la reconstitue à partir des vestiges, il faut imaginer une cour centrale avec des bâtiments autour. Il y a à peu près trois bâtiments. Le troisième est le plus développé avec trois corps de bâtiments et un étage. Et il y a une cour centrale dans laquelle on vivait le plus souvent. Les bâtiments n'avaient pas de fenêtres, ou parfois une toute petite fenêtre, mais la plupart du temps non. Et puis, alors il faut se figurer aussi, quand on est venu à Capharnaüm, c'est assez frappant, les pierres sont basaltiques noires. Donc c'est un village qui était, enfin une petite ville, c'était pas un village, c'était une petite ville, où toutes les façades des maisons étaient toutes noires. Ça devait faire une impression assez étonnante. Et donc, c'est un corps de bâtiment avec pas mal de monde qui vivait dedans. Et donc, c'est ça qui est super avec cette maison, que j'aime beaucoup visiter, c'est que c'est le lieu que Jésus appelle « ma maison ». Et on nous dit dans l'Évangile, parfois, il revint dans sa ville, il s'agit de Capharnaüm, il alla ensuite à la maison, ou même à sa maison, on voit ça dans l'Évangile selon saint Matthieu. Donc c'est devenu le quartier général de Jésus et sa maison. Il était chez lui, chez Saint-Pierre. Donc c'est un magnifique signe de ce que nous sommes appelés aussi à faire nous-mêmes. Il faudrait que notre maison devienne la maison où Jésus se sent chez lui. C'est très très beau à ce moment-là.
Voilà, il y a aussi une synagogue qui est le lieu où le Christ parle de son corps et de son sang à côté, si je ne me trompe pas, pour la première fois qu'il donne comme nourriture. Mais comme je vois le temps qui passe, j'aimerais que vous nous parliez donc du troisième lieu que vous avez choisi, qui est donc le Saint-Sépulcre. Le Saint-Sépulcre, c'est donc à Jérusalem, et au Saint-Sépulcre, il y a, comme son nom l'indique, donc la tombe de Jésus, mais aussi le Golgotha. À quoi ça ressemble ? C'est pareil, si vous nous deviez nous emmener rapidement dans ce lieu et commencer par le décrire, frère Moïse.
Alors, contrairement à Capharnaüm, on voit bien les vestiges de l'époque de Jésus. Quand on arrive au Saint-Sépulcre, là, tous les pèlerins sont toujours un peu décontenancés. On ne sait pas trop où tourner le regard. On entre dans une église. On n'entre pas par l'arrière, comme dans la plupart de nos églises. On entre par le côté. Et puis, quand on arrive, on ne voit pas l'intérieur de l'église dans son ensemble, parce que c'est un enchevêtrement de différentes constructions de différents siècles. C'est très beau parce que c'est le signe, il y a eu des constructions à toutes les époques plus ou moins, mais notamment à l'époque byzantine et puis l'époque croisée, l'époque médiévale, c'est le signe ça que les croyants de finalement même de toutes les nations qui se sont rassemblés à Jérusalem et les croyants locaux, ils ont essayé à chaque fois de vénérer le lieu et ils ont construit, quand ça a été détruit, ils ont tout de suite reconstruit. Et puis, c'est, d'où cet enchevêtrement. Donc, quand on entre par le côté...
Qu'est-ce qu'on y trouve ? Voilà, qu'est-ce qu'on peut y voir, en fait
On tombe, en fait, c'est le cas de le dire, on tombe sur la pierre tombale, enfin, pas la pierre tombale, la pierre d'où qui marque la pierre de l'onction, qui marque le lieu où on a descendu Jésus de la croix. Si on tourne la tête à droite et qu'il y a des escaliers qui montent et on arrive au Golgotha, qui se trouve tout de suite sur le côté droit en entrant. Et par contre, si on se dirige, qu'on passe à côté de cette pierre de l'onction et qu'on va vers la gauche, on arrive vers la grande rotonde dont le tracé date du 4e siècle, de l'époque de Constantin, et qui est centrée sur ce qu'on appelle l'anastasie, c'est-à-dire sur le tombeau du Christ. Alors, le tombeau, on aimerait bien le trouver comme il était à l'époque de Jésus, mais pas du tout. Il est presque invisible puisqu'il est enchâssé dans une sorte d'écrin de marbre qui est destiné à le rendre vénérable et digne, mais qui malheureusement le cache aux yeux des pèlerins qui aimeraient bien le voir de leurs yeux. Mais bon, en tout cas, dans cet écrin de marbre, quand on rentre, il y a une antichambre, et quand on passe l'antichambre, on arrive dans le tombeau lui-même, et on peut s'agenouiller dans un espace tout petit. On peut être 5 en se serrant beaucoup, à genoux, et pouvoir vénérer le tombeau du Christ.
Avec même, donc j'ai vu une chapelle de l'ange, c'est une forme de vestibule avant de rentrer dans cette chapelle où il faut se baisser, qui est le lieu où se serait tenu l'ange donc au pied du tombeau, d'après les récits de la résurrection. Bah, Moïse, frère Moïse, merci de ce rapide pèlerinage. Des pèlerinages, vous en avez de prévus? Est-ce que, de fait, il faut inciter les auditeurs à anticiper leur futur pèlerinage?
Alors moi, je voudrais souligner ce qu'on disait tout à l'heure, parce que j'habitais en Terre Sainte à l'époque de l'Intifada, et j'étais vraiment trop désolé à cette époque-là. À cause de l'Intifada, les gens, donc c'était il y a 20 ans, les gens ne venaient pas en Terre Sainte, mais moi qui étais sur place, je disais, mais il y a toutes les conditions réunies pour faire un magnifique pèlerinage, et c'est trop dommage qu'on se prive de cette grâce, et en même temps qu'on prive les chrétiens locaux, et les autres aussi d'ailleurs, des revenus liés aux pèlerins. Donc je vous invite vraiment à ne pas céder à la peur, je voudrais souligner ça. Personnellement, je vais guider un pèlerinage l'été prochain pour des jeunes de la communauté, liés à la communauté des Béatitudes en juillet 2021. Notre communauté organise un autre pèlerinage au mois de mars, je n'y serai pas personnellement, mais au mois de mars 2021, et j'invite vraiment les auditeurs à s'inscrire massivement à tous les pèlerinages organisés comme ça.
Voilà, donc il ne faut pas écouter la peur, et si même pendant l'Intifada on pouvait pèleriner en toute tranquillité, on peut imaginer que maintenant que le coronavirus est plus que maîtrisé, il est tout à fait justifié de retourner en Terre Sainte dès que ça sera possible. Merci beaucoup frère Moïse Ballard, je rappelle le titre de votre livre, L'enjeu spirituel du mystère d'Israël, paru aux éditions des Béatitudes, et puis pour retrouver les prochains pèlerinage de la communauté, et bien tout simplement sur internet, communauté des béatitudes, vous finirez par trouver. On fait une deuxième pause et on va retrouver Axel et Aliette de la Hondès, nos deux témoins qui sont partis, elles deux et avec leur famille, réunies, et ça faisait du monde en Terre Sainte, c'était à Noël dernier.
Radio Présence à Belmont-sur-Rance, 93.1. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Partir en Terre Sainte en famille, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin. Était avec nous en début d'émission un religieux franciscain de la custodie de Terre Sainte, Stéphane Milovic, en direct depuis Jérusalem. Avec nous Moïse Ballard, religieux de la communauté des Béatitudes et accompagnateur de pèlerinage, et donc Axel et Aliette de la Hondesse, pèlerines en Terre Sainte. Alors vous êtes partis en famille. Vous allez nous raconter ça, nous dire pourquoi ça vous a marqué et donner envie à d'autres de franchir le pas, probablement. Pas que l'on imagine trop très grand, alors qu'il ne l'est peut-être pas autant que ça aussi. Axel, vous me disiez en préparant votre intervention que voilà, il faut peut-être commencer par vous présenter. Donc, vous êtes donc une famille avec 6 enfants, donc famille pratiquante qui, vous m'avez dit, avait à cœur de vivre votre foi au sein de la famille, et ce de manière explicite, plus que les générations du dessus qui, par pudeur, peut-être ne vivaient pas tout cela en famille. Et puis, vous caressiez le rêve de partir en Terre Sainte. Alors, ce rêve, ça faisait longtemps que ça vous trottait dans la tête?
Oui, ça fait très longtemps que nous en rêvions, mon mari, Étienne et moi. Mais on ne voulait pas partir à deux. On voulait vraiment partager cette aventure, ce moment incroyable avec nos 6 enfants. Et donc c'est certain que on hésitait, parce qu'au niveau économique, évidemment, ça nous semblait inaccessible.
On y reviendra. Vous nous direz aussi un petit peu ce que ça vous a coûté, parce que c'est des choses pratiques aussi importantes. Alors vous, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est que vous avez donc perdu vos parents, qui sont décédés assez brutalement, donc en 2017 et en 2018. Et puis, vous aviez, comme de nombreuses familles, vous me disiez, l'habitude d'aller chez l'un et l'autre, chez l'une et l'autre famille à l'occasion de Noël. Vous êtes retrouvés une fois, donc c'était en 2018, à Noël, en famille, seul. Enfin, votre famille à vous. Et puis, votre petite dernière ou avant-dernière, vous a lancé une question. Et là, vous vous êtes dit, il faut saisir la balle au bond. Redites-nous quelle a été son interpellation.
Elle nous a dit, mais pourquoi nous n'allons pas fêter Noël à Bethléem, le lieu de la naissance du Christ? Pourquoi est-ce qu'on est là, autour du sapin, finalement? Noël, c'est la naissance du Christ, c'est à Bethléem, il faut absolument partir là-bas.
Et là, ça a suffi à vous décider, ou est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez sauté le pas?
Alors, c'est vrai qu'on a saisi aussi cette opportunité des compagnies aériennes qui proposaient des budgets très intéressants pour partir Toulouse-Tel Aviv. Et on s'est dit que, dans le fond, c'était possible. Et puis oui, c'est vrai que c'est ce sentiment un petit peu de solitude le soir de Noël, sans pouvoir être auprès de mes parents, puisque c'était l'année de mes parents. On s'est dit, mais finalement, en étant en Terre Sainte, au plus proche du Christ, et donc au plus proche aussi de ceux que nous aimions et qui nous avaient quittés, et ben vraiment, c'était là que nous devions être pour Noël l'année dernière, donc Noël 2019. Voilà, tous ensemble.
Alors, c'est ce que vous avez fait. Donc, vous êtes parti avec vos 6 enfants. Donc, Aliette nous en parlera un petit peu. Vous m'avez dit donc que vous aviez fait un parcours assez conséquent. Vous avez passé une dizaine de jours là-bas, hein, dans le désordre. Vous êtes allé donc dans le Négev, lieu de baptême du Christ, à Jéricho, à Jérusalem, au lac de Tibériade, au mont Tabor, à Nazareth. Et puis, vous avez même fini par un... Il y avait beaucoup de pédagogie dans la manière dont vous l'aviez construit. Vous avez fini par une partie qui concernait les apôtres. Peut-être juste, vous pouvez apporter une précision là-dessus.
Oui, Saint Jean d'Acre, Césarée, Aïcha, c'était vraiment la côte méditerranée. C'est le lieu, finalement, du départ des apôtres vers l'Europe, vers l'Occident, pour apporter la nouvelle du Christ. Et c'est de là vraiment qu'a débuté, enfin c'est en tout cas ce qui a permis de porter la religion catholique et la foi en Christ ressuscité. Donc on a fini notre pèlerinage sur la côte atlantique, sur le pas des apôtres, en se disant que nous, à notre tour, il fallait peut-être aussi que l'on apporte aussi cette bonne nouvelle autour de nous.
Avec vue sur la mer, voilà, c'est sûr que c'est la mer est toujours un élément dans la Bible qui parle de la grande aventure de la mission de l'Église. Aliette, parmi tous les lieux que vous avez visités en famille, votre mère, elle, m'a déjà dit, et puis elle nous le dira, donc c'est le Jourdain, le lieu du baptême du Christ qui l'a beaucoup frappé. Vous, quel est le lieu qui vous a frappé et pourquoi ?
Alors, le lieu qui m'a le plus frappé, c'est certainement le Mont Tabor qui se situe donc en Galilée. C'est le lieu où Jésus fut transfiguré sous les yeux de Pierre, Jacques et Jean.
Alors, à quoi ça ressemble déjà, si vous deviez nous le décrire, nous emmener en voyage avec vous?
Alors, le Mont Tabor, c'est une colline de presque 600 mètres de haut qui se situe sur une plaine. Et donc, on ne voit que ça, on voit juste le Mont Tabor et il n'y a rien d'autre autour.
Alors, qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé? Souvent, on monte au Mont Tabor en faisant une longue marche, hein, on y monte rarement en voiture, en tout cas, on fait une partie de pèlerinage. Et c'est le lieu donc, de la transfiguration. Alors, pour ceux qui, par hasard, ne sauraient pas, c'est le lieu où Jésus apparaît dans sa gloire, hein, comme de manière anticipée. Et en même temps, sur le haut de la colline, sauf erreur de ma part, il y a une église et il n'y a pas grand-chose d'autre. Qu'est-ce qui vous a touché, vous, dans ce lieu? Pourquoi ça vous a touché?
Alors, ce qui m'a touché, c'est la beauté, tout simplement, du paysage et l'ambiance paisible du plateau. Et qui, à mon avis, favorisait le dialogue avec Dieu. On se sentait vraiment seul avec Dieu. On pouvait lui parler en toute sincérité. Et l'ambiance de ce lieu vraiment favorisait cela, le paysage qui favorisait la contemplation.
Voilà, vous êtes presque prêt pour le Carmel, hein, parce que, sauf erreur de ma part, c'est là-bas que les premiers frères du Carmel, d'une certaine manière, se sont installés. Vous, donc, Axel, c'est le lieu du baptême du Christ, donc le Jourdain. C'est pareil, si vous deviez commencer par nous décrire et l'arrivée et le lieu.
Oui, alors pour arriver sur ce lieu du le baptême du Christ, on a tous une idée en tête parce qu'on a lu, évidemment, on a entendu les évangiles, et c'est vrai que c'est très surprenant quand on arrive, le chemin qui nous y conduit, qui est un chemin très, on sent une violence parce qu'il y a terrain miné de part et d'autre, etc. Enfin,
donc on va vers la Jordanie, il faut le dire.
Oui, c'est ça. Voilà. On se dirige vers le Jourdain est lui-même actuellement une frontière entre l'Israël et la Jordanie. Et donc, on prend cette immense allée qui est un peu désertique, avec juste des pancartes « Attention, mine ». Et puis, on arrive au bord du Jourdain, qui est en fait comme un oasis, avec une végétation luxuriante, vraiment magnifique. Et on aperçoit donc la Jordanie en face, mais au milieu du Jourdain, il y a la frontière vraiment bien, bien délimitée, ce qui est surprenant dans un endroit comme ça. Et puis,
moi, ce qui vous a frappé, c'est l'effet de contraste quelque part. Hein.
C'est ça, c'est ça. C'est d'un côté la paix que l'on peut trouver dans une oasis, avec cette végétation, avec la présence de l'eau, et c'est vrai qu'on descend. Hein, on descend donc vers le Jourdain. On descend un peu vers un endroit paisible vraiment. Et puis, en même temps, il y a cette présence de cette tension qu'on peut palper quand même aussi, créée par les hommes, finalement, qui n'existait pas à l'époque du Christ. Mais la paix ressort quand même sur tout ça. Donc la paix est plus forte, l'apaisement est plus fort que cette violence qui pourtant est bien présente.
Alors justement, vous, la paix, si vous devez regarder dans le rétroviseur, c'est souvent par ça donc que je finis ces émissions ou cette séquence de témoignages. S'il y a un avant et un après, l'après, c'est une intense paix intérieure. En tout cas, c'est comme ça que vous êtes revenu de Terre Sainte. Est-ce que vous pouvez nous partager et nous dire pourquoi cette paix aussi était importante pour vous?
Oui, c'est vrai que quand on avait vécu des drames très très difficiles, hein, le départ violent de personnes que l'on aime, on n'est pas préparé bien sûr et c'est pas facile à vivre. Dans notre foi, on se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de combats intérieurs et ce voyage et cette proximité avec le Seigneur, avec toute notre foi, a permis de d'être conforté dans l'assurance que de la présence de Dieu quoi qu'il arrive Donc c'était vraiment une grâce, c'était une immense grâce.
Et cette paix demeure après, ou est-ce qu'il faut vous imaginer y retourner le plus rapidement possible pour retrouver cette paix? Je veux dire, est-ce que quand on dit qu'il y a un avant et un après la Terre Sainte, plus sérieusement, quel serait dans ces cas-là l'avant et l'après?
L'impression que l'on n'est pas rassasié, que l'on n'est pas rassasié, c'est-à-dire qu'on a tout ce que l'on a vécu était tellement fort, tellement beau, tellement extraordinaire, qu'en fait on a vraiment envie d'y retourner et de retrouver encore cette proximité. Même si tous les jours dans la prière, bien sûr, on peut se sentir proche de Dieu, mais là c'est une proximité physique presque charnelle un peu. Donc, vraiment, on espère pouvoir revenir en Terre Sainte.
Aliette, pour finir, vous, s'il y avait un avant et un après, qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs?
Alors, je pense que pour grandir, on a besoin de savoir d'où l'on vient. Et pour grandir dans ma foi, finalement, on avait besoin de savoir d'où venaient nos ancêtres spirituels et cette connaissance de l'histoire de Jésus, de la Bible, de l'histoire de notre religion m'a beaucoup touchée et transformée. La Terre Sainte m'a donné envie de lire la Bible et de mieux connaître notre religion.
Et ben voilà un beau fruit, frère Moïse. Que dit l'accompagnateur de pèlerinage? Est-ce que y a pas meilleure publicité, non?
Eh ben moi je suis émerveillé par tout ce que je viens d'entendre. C'est très très beau ce qu'a vécu cette famille. Et puis je souscris à tout ce qui a été dit. De fait, c'est quand on revient de Terre Sainte, il y a un avant et un après. Tous les pèlerins le disent.
Voilà, donc c'est une promesse, on va dire, garantie sur facture, si je puis me permettre. Merci à tous d'être venus au micro de Vivante Église ce matin pour nous parler de la Terre Sainte. La Terre Sainte, il faut donc y aller pour soi et pour aussi les chrétiens de Terre Sainte. Retrouver tous les pèlerinages et bien sûr auprès des différentes agences de voyage chrétiennes, des différentes communautés avec lesquelles vous avez des affinités. Peut-être frère Moïse, pour la communauté des Béatitudes, si vous deviez juste donner un numéro de téléphone ou une adresse internet.
Eh bien, le pèlerinage organisé par notre foyer de Petit Château en Belgique, vous pouvez vous connecter sur internet sur l'adresse ti-beatitude.com, ti-beatitude avec un net.com, et vous aurez les informations pour le pèlerinage organisé au mois de mars prochain. C'est vraiment une occasion.
Voilà, l'information est transmise. Et puis le titre de votre livre pour creuser le fameux mystère d'Israël. Une autre raison d'aller en Terre Sainte, c'est de mieux découvrir nos frères aînés et ce qui continue de se jouer entre nous aussi dans notre foi. L'enjeu spirituel du mystère d'Israël, paru aux éditions des Béatitudes. Un grand merci à tous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h. Ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.